Je précise tout de suite que ce dont on m'a demandé de parler, plutôt ce que j'ai proposé d'évoquer, à savoir l'avenir de la lecture numérique, se situe un petit peu en aval de tout ce qui a été évoqué depuis hier et immédiatement. Je vais également en parler d'un point de vue d'un littéraire, puisque je suis professeur de littérature comparée à l'Université d'Artois, et d'une discipline littéraire qui est un petit peu particulière, puisque la littérature comparée a pour objet l'étude des relations littéraires et intellectuelles internationales. Il se trouve qu'à l'Université d'Artois, j'ai créé un centre d'études et de recherche sur les textes électroniques littéraires. J'ai d'ailleurs commis quelques ouvrages sur la littérature et l'informatique. Et je me référerai essentiellement à un ouvrage qui a été publié l'année dernière auprès de l'Université de Limoges sur littérature informatique et lecture, d'où je tirerai quelques-unes des remarques et des réflexions que je soumettrai donc à votre examen. Mon propos, si vous voulez, ne sera peut-être pas aussi, comment dirais-je, scientifique que tous les exposés que j'ai entendus. Je vais simplement vous proposer une promenade à travers les ressources informatiques qui sont maintenant proposées aux chercheurs, aux littéraires, entre ce qui est effectivement disponible sur Internet, entre ce qui est plus ou moins commercialisé ici ou là, soit sur des disquettes ou sur des CD-ROM, ou bien ce que l'on peut trouver ici ou là dans certains centres de recherche universitaire. Et ça nous amènera peut-être à évoquer certaines des questions qui viennent d'être, comment dirais-je, posées à propos de la diffusion des logiciels. Cette promenade, je vais la décomposer en essayant de vous décrire à grands traits ce qu'il en est aujourd'hui de l'édition électronique et en même temps des formes de lecture numérique ou assistées par ordinateur ou interactives qui y sont associées, car souvent les textes électroniques qui sont diffusés, les textes littéraires électroniques, sont en quelque sorte ou bien associés ou bien imbriqués ou même enkystés à l'intérieur de logiciels de lecture assistée par ordinateur, qui varie selon les maisons d'édition, selon les auteurs, selon quelquefois les finalités poursuivies. Et donc, je vais vous proposer d'abord une présentation très rapide de ce qui existe en matière d'édition en mode image, c'est-à-dire l'édition de textes littéraires électroniques sous la forme de fac-similés qui correspondent à des photographies numérisées de pages de livres. Ensuite, dans un deuxième point, ce qu'on peut appeler l'édition en mode texte, qui paradoxalement va peut-être connaître un nouvel essor avec l'avenir annoncé du livre électronique, du e-book. Je dirai également quelques mots des formes d'édition en mode hypertexte et ce serait répondu avec Internet. J'essaierai de vous présenter quelques exemples, quelques échantillons d'éditions littéraires hypertexte et hypermédia pour vous donner une idée de ce que l'on a pu faire, en précisant d'ailleurs que beaucoup de réalisations que je vais présenter n'ont plus qu'un intérêt historique. Et mes conclusions seront assez désenchantées, et vous pourrez me permettre de mieux comprendre pourquoi mes conclusions seront désenchantées, puisqu'hier on a beaucoup évoqué la nécessité de se référer à un corpus de référence. J'essaierai de clore ce parcours en vous présentant une réalisation qui est inédite, qui est comparatiste, et qui, jusqu'à nouvel ordre, est interdite de publication, mais qui vous donnera peut-être une idée de ce que l'on peut faire par opposition à ce qui est déjà disponible ici ou là. Donc voilà ce qu'il en est. Et tout d'abord, de l'édition donc en mode image, qui est la première forme d'édition électronique que j'ai annoncée, et dont je vais essayer de vous présenter donc deux ou trois exemples. Cette édition en mode image, d'abord, tout un chacun peut maintenant la faire avec des scanners. On peut scanner donc n'importe quoi en mode image, et chacun peut fabriquer sa propre donc édition électronique. Sur le plan institutionnel, nous avons à la Bibliothèque nationale de France un fonds documentaire qui est important, qui existe depuis 1996 et qui est constitué d'une collection d'environ 300 000 volumes dans tous les domaines de la connaissance, qui ont été entièrement numérisés en mode image. Et vous avez donc ici un début de la lettre sur l'éducation de Fénelon, sauf erreur de ma part, qui vous donne une idée de la façon dont ça se présente. En gros, la Bibliothèque nationale de France a fait photographier les pages de 300 000 ouvrages, 300 000 ouvrages, pardon, et en particulier les éditions Princeps, les éditions premières de tous les grands auteurs de la littérature française. À partir de là, et vous allez voir comment les notions d'édition électronique, de mode d'édition et de lecture assistée par ordinateur sont étroitement imbriqués et peuvent déterminer de nouveaux clivages, de nouvelles formes d'exclusion à la lecture numérique. Si vous avez le privilège d'avoir accès aux salles de recherche du rez-de-chaussée de la Bibliothèque nationale de France sur le site de Tolbiac, vous avez accès à des salles spécialisées qui sont un peu à part, et vous pouvez accéder donc par l'intermédiaire de stations de lecture assistée par ordinateur, c'est la dénomination de la Bibliothèque nationale de France, donc à des ordinateurs dont voici le principal écran de travail. Vous avez sur la partie droite donc le texte, la page du texte que vous avez appelé. Et puis sur la gauche, vous avez un certain nombre donc, de boutons qui correspondent à ce qu'on appelle un langage d'annotation. Ce langage d'annotation permet en principe d'associer par exemple à 3 ou 4 lignes de ce texte un commentaire que l'on va rentrer au clavier. Et donc c'est un petit peu l'équivalent de apporter des notes en marge d'un livre imprimé au crayon par exemple. Vous avez la possibilité de récupérer en principe ces commentaires sur des fichiers informatisés sur des disquettes, voire de les imprimer ou de les regrouper par thème. C'est ce que la Bibliothèque nationale de France appelle un système de lecture assisté par ordinateur. Et je ferai deux remarques. Premièrement, l'acte de la lecture sur le plan intellectuel ne change pas de nature. On continue à lire un texte qui est affiché sur un écran exactement comme il est imprimé sur une page imprimée. Simplement, l'apport de l'informatique consiste à apporter des aides périphériques à cet acte par l'intermédiaire de ce langage de notation. Ce qui se passe, c'est que sur ces 300 000 volumes, il y a à l'heure actuelle environ 86 000 volumes qui sont diffusés sur Internet par l'intermédiaire d'un centre serveur expérimental, enfin qui commence à cesser d'expérimental, qui s'appelle Gallica. Et ce qui est proposé sur Internet présente d'abord, l'avantage d'être consultable, en principe, de son domicile. Ce sont des textes qui sont libres de reproduction, donc on peut les télécharger, les recopier, voire les réimprimer. L'inconvénient, c'est que, évidemment, on n'a plus accès au langage d'annotation de la Bibliothèque nationale de France. Donc, en fait, si vous voulez, à part la micro-édition, on a un peu de mal à récupérer, à exploiter ce fonds documentaire qui est pourtant important. En même temps, il y a un deuxième inconvénient que j'ai découvert. Il se trouve qu'avec une université brésilienne qui fait des recherches un peu dans le même domaine que moi, nous sommes en train de travailler sur une édition bilingue de textes français et portugais. Et en particulier, en ce qui concerne le domaine français, nous avons pris la relation de voyage de Jean de Léry, relation d'un voyage au Brésil qui date du XVIe siècle. Donc, nous avons prévu de juxtaposer les éditions en mode texte du texte en français dans la langue du XVIe siècle et puis la traduction en portugais qui existe. Et nous avons songé y associer les 4 éditions en mode facsimilé du XVIe siècle qui sont proposées par la Bibliothèque nationale sur ce front, dans ce qu'elle appelle sa bibliothèque numérique. Cela nous a permis de découvrir que la qualité de la reproduction est directement fonction de la qualité de la reproduction. Alors, il s'avère qu'il y a de temps en temps des pages illisibles, parce que les photographies ont été mal faites. C'est une gêne, une petite difficulté supplémentaire. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à la remarque que je voulais faire, déjà, rien qu'au niveau de ce premier type d'édition électronique, nous avons deux types au moins de consultation ou d'accès au texte. L'un qui est relativement élaboré, mais qui est réservé à une petite élite de chercheurs à l'intérieur de la Bibliothèque nationale de France, l'autre qui est proposé au grand public, mais qui exclut donc toute forme de lecture assistée par ordinateur appropriée ou adaptée. Je m'en tiendrai là en ce qui concerne ceci, en précisant toutefois qu'il y a quand même un deuxième fonds documentaire dont on a beaucoup parlé, qui est en fait, si vous voulez, l'incorporation de la banque de données Frontex à l'intérieur de ce fonds documentaire, la bibliothèque numérique, et donc on retrouve les 3000 ou 4000 textes de la banque de données Frontex que l'on peut donc exploiter de la même manière, et on peut également à ce moment-là faire des recherches plein texte, voire faire appel à des logiciels donc de traitement statistique. Voici ici la première scène du Don Juan de Molière par exemple. Cette première réalisation avait donné lieu à l'élaboration de projets de bibliothèque universelle, de bibliotheca universalis, dont vous trouverez d'ailleurs des descriptions sur Internet à l'enseigne du site du ministère de la Culture en France. Simplement, à ma connaissance, mais peut-être que Jean-Didier Wagner cet après-midi pourra nous le confirmer ou l'infirmer, la Bibliothèque nationale de France n'a plus enrichi son fonds documentaire depuis 1996. Et on peut se demander quel sera l'avenir de ce type d'édition en mode image et si finalement cette réalisation ne va pas rester confinée à l'état actuel de la bibliothèque numérique. C'est déjà donc une première observation que l'on peut faire en ce qui concerne donc ce premier type d'édition électronique et au fond ce premier type aussi de lecture numérique, si on peut s'exprimer de cette manière. Le deuxième mode d'édition, ça vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle le mode texte, c'est historiquement peut-être le plus ancien, dès que les ordinateurs ont su s'exprimer. C'est ce que l'on peut faire déjà avec un simple traitement de texte. Donc, c'est un texte dont chaque caractère alphanumérique est représenté par son image informatique et dont nous avons ici, par exemple, j'ai un article à propos d'une traduction française de Karamuru, qui est une épopée écrite en portugais, mais dont l'action se situe au Brésil, qui est donc l'autre texte portugais sur lequel je travaille. Et à partir de là, ce que l'on peut faire déjà, c'est une toute petite recherche dont vous avez certainement l'habitude. Nous allons rechercher le mot indien, ou plutôt amour. On fait des découvertes assez étonnantes. C'est un texte donc du XVIIIe siècle. Enfin, et donc on voit, si vous voulez, on peut déjà de cette manière repérer tous les contextes du mot amour. Je vous montre ça parce que c'est ce qui correspond aux fonctionnalités les plus évoluées des livres électroniques sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. L'intérêt, c'est que quand on a un texte en mode texte, on peut par exemple utiliser d'autres logiciels, par exemple Iberpass ou pourquoi pas Sato de l'Université de Montréal ou WordCruncher, et à partir de là, donc utiliser des systèmes de lecture assistée par ordinateur ou de lecture interactive beaucoup plus élaborés, beaucoup plus performants. On a la possibilité, dès l'instant où on a le texte, donc édité sous la forme de fichiers informatisés en mode texte. Et puis, il y a une autre façon de faire qui s'est répandue donc sur Internet, c'est l'édition en mode hypertexte, et je vais vous en montrer un échantillon à partir des Contes de Perrault, d'une édition des Contes de Perrault, qui est conçue en partie sur ce principe, c'est une réédition d'un recueil, d'un hyperlivre produit par les éditions Ilias en 1994, pardon, et que j'ai retravaillé avec l'aide donc de Mademoiselle Karine Gürtner. Et donc, vous avez la possibilité de voir, donc, de parcourir le texte. Vous voyez que certains soucis ont été faits pour retrouver quelque chose de la présentation typographique primitive. Et donc, là, l'on peut tourner les pages et on peut aller, donc, vous avez déjà un premier mode de lecture tout à fait traditionnel qui est proposé, qui consiste simplement à tourner les pages en amont ou en aval. Je reviens en arrière et c'est également, en même temps, je vous le signale, une deuxième fonctionnalité qui est proposée par les futurs livres électroniques dont je pourrais vous montrer des photographies ici, mais malheureusement elles sont trop petites. C'est simplement pour, au passage, vous permettre d'enregistrer quelques éléments d'information sur lesquels je reviendrai tout à l'heure d'une manière peut-être un peu plus critique. Et puis, nous avons une table des matières, et donc il y a un certain nombre de liens hypertextuels qui sont établis entre les titres des contes, le texte. Et donc, vous pouvez donc circuler de cette manière à l'intérieur du texte. Là, nous en sommes au petit chaperon rouge. Cette petite édition est déjà, si vous voulez, modestement multimédia, car on y a associé quelques photographies, en particulier donc des images d'Épinal. Ici, une image d'Épinal qui représente le petit chaperon rouge, d'après donc les contes de Perrault. C'est sur ce principe que l'on circule donc sur Internet, puisque un hypertexte, c'est un système informatique qui vous permet d'aller d'un bloc d'information à un autre par l'intermédiaire d'un lien. Je n'insiste pas, vous connaissez ces définitions qui sont familières. Mais disons que depuis 1997, avec l'essor donc du réseau Internet, ce mode d'édition électronique est devenu absolument massif et concerne à peu près tous les domaines de l'activité humaine, y compris littéraire. Et il y a un nombre maintenant vertigineux de sites littéraires en de multiples langues, qui propose donc des collections de textes bruts sur toutes sortes de sujets, d'auteurs, que ce soit Hugo, Balzac et bien d'autres. Voilà donc en ce qui concerne l'édition en mode hypertexte, et je vais maintenant vous montrer un échantillon de ce que cela peut donner en mode hypermédia, à propos d'ailleurs d'un CD-ROM auquel j'ai apporté une petite contribution, que certains d'entre vous connaissent, et qui s'intitule François René de Chateaubriand, Les itinéraires du romantisme aux éditions Acamédia. C'est donc un CD-ROM qui a été diffusé en 1997 et qui donc est une réalisation intéressante peut-être à plus d'un titre, je vais vous en laisser juge. Je vais neutraliser le son pendant que le générique s'affiche. Sur ce CD-ROM, vous avez la totalité des œuvres de Chateaubriand. Vous avez un certain nombre de documents qui sont réunis, des documents photographiques, des gravures, des reproductions de gravures, des estampes. Vous avez une petite séquence vidéo sur la vie de Chateaubriand. Vous avez également donc la totalité des œuvres. Nous allons voir comment est organisée cette masse documentaire dans une ou deux petites minutes. Et puis, vous avez également un logiciel de recherche qui permet d'explorer le contenu de ce CD-ROM et qui est dérivé du logiciel américain Topic. C'est une version, disons, francisée de Topic qui a été utilisée. Là, je vais essayer de voir si la technique ne me trahit pas, si je peux donner la parole au CD-ROM pour vous le présenter. Et les gens qui, effectivement, craignent qu'un jour les ordinateurs remplacent les enseignants ont peut-être raison.
Allez voir vous-même les extraits des textes les plus beaux et les plus connus de Chateaubriand. Pour les élèves et les étudiants, des fiches scolaires sont à votre disposition. Le second parcours vous permet d'avoir une connaissance approfondie sur Chateaubriand et les différents thèmes en rapport avec son œuvre et ses idées. 32 notices vous attendent que vous pourrez parcourir de façon imagée et agréable en vous orientant vers les choix qui vous intéressent. Le troisième parcours conduit directement vers les œuvres complètes de Chateaubriand et les outils de lecture assistés par ordinateur. Vous accéderez pour chacune des œuvres à un résumé ou directement au texte complet, avec la possibilité d'annoter les pages, de les imprimer, de les envoyer dans votre traitement de texte, de créer vos propres thèmes et de faire des recherches poussées sur le texte intégral. De quoi faire un véritable travail scientifique. Pour faciliter votre navigation dans le CD-ROM, une indication sur l'interactivité est toujours présente en bas de l'écran. Vous avez toujours la possibilité d'accéder à la cartographie du CD-ROM qui vous permet de vous situer et de vous déplacer rapidement dans celui-ci. Après ce survol, à vous de jouer. Écrivez-nous quand vous aurez lu, mais tout lu.
Pardon. Bien, donc sur ce principe, deux autres titres ont été produits par la société Acamédia. Un titre antérieur, donc sur l'œuvre d'Alexandre Dumas, et puis donc l'année dernière, un autre titre sur la totalité de la comédie humaine de Balzac. Nous allons sortir de ce CD-ROM. Et je vais peut-être revenir en arrière sur les hyperlivres pour vous montrer deux ou trois. Chose que l'on peut trouver, enfin qu'on a pu trouver dans le commerce. Je ne sais pas si c'est encore disponible parce que les éditions Ilias se sont retirées du marché. à propos donc d'une anthologie que j'ai réalisée sur Aimé Césaire et qui malheureusement est interdite de diffusion. Ce qui nous ramènera peut-être à reposer autrement ou même à discuter entre nous des modalités de diffusion, car malheureusement, si une recherche n'aboutit pas à une publication, elle reste inconnue, ce n'est pas une recherche complètement achevée quelque part. Donc on retrouve le même principe que pour la présentation des textes de Perrault. Donc là, c'est le début du cahier de retour au pays natal de 1939. Le texte est présenté de la manière suivante, et vous avez un premier type de lecture qui est respecté, qui est le mode de lecture le plus traditionnel qui soit. Le deuxième mode de lecture, c'est celui que je vous ai indiqué, à savoir la possibilité de circuler d'un poème à l'autre. Ici, nous sommes dans Tam Tam 1, poème dédié donc à Benjamin Perret, et puis je peux revenir sur Batouk, et donc explorer le contenu très librement de cette manière, en fonction peut-être d'intuition. Et puis on peut également se livrer à une autre recherche. Donc je vais choisir un texte au hasard, le bouc émissaire. Ici, vous avez une série d'icônes qui correspondent à l'équivalent du langage d'annotation de la Bibliothèque nationale de France. C'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité d'associer un commentaire au passage choisi. De le mémoriser dans un dossier, dans un fichier informatisé, et d'en faire ultérieurement toutes les exploitations que vous voudriez en faire. Et puis, on a ici donc l'accès à ce qui est appelé un livre des citations. En fait, c'est un écran de recherche. Et nous allons demander, par exemple, si le mot il est souvent utilisé. Et vous voyez que le logiciel me donne immédiatement tous les emplois du mot il dans les poèmes d'Aimé Césaire, avec ce qu'on appelle en termes techniques la concordance quick, keyword in context, donc le contexte immédiat de chaque occurrence. Et si je veux accéder à un contexte étendu, je prends par exemple celui de la page écran numéro 118. Les numéros indiqués à gauche, ce sont les numéros de page écran. Et je suis dans un poème intitulé Soleil serpent. Et à partir de là, je peux découvrir la suite du poème simplement avec l'icône mobile qui me permet de tourner les pages ou revenir en arrière. Je peux revenir, les résultats de la recherche sont restés, et je peux de cette manière donc circuler de contexte en contexte. Et donc on a un instrument de recherche thématique qui peut être très utile dans les études littéraires. En même temps, un dictionnaire de termes associés a été intégré au logiciel, puisque toutes ces recherches en fait sont faites en temps réel. Et vous voyez que le mot île est associé au mot mer et au mot rivière. Mer est associé à son tour à abyssal ou à abysse. Et si je clique sur le mot abysse, effectivement, vous voyez que le mot abysse est utilisé et que l'on peut accéder donc de cette manière à son contexte immédiat ou étendu. On peut revenir en arrière. Et si je clique sur le mot rivière, donc les deux entrées sont interverties. Et si je vais sur cascader, le terme cascader effectivement est utilisé. Et vous voyez comment on peut parcourir donc tout le texte et donc aller d'un réseau. De termes associés les uns aux autres par comment dirais-je, des relations à la fois sémantiques et statistiques, qui sont prédéterminées par le logiciel, hein, parce qu'il y a un dictionnaire qui est un peu incorporé, qui est un dictionnaire de langue des années 1960. Ce qui parfois d'ailleurs pose des problèmes d'interprétation. Je vais vous en donner un exemple tout de suite. C'est le mot noir. Bon, le mot noir qui est utilisé par Aimé Césaire. Simplement, quelquefois, on trouve comment dirais-je, le sable est noir, funèbre, etc. Et donc, quand vous présentez ceci aux Antilles ou en Amérique du Nord devant des collègues spécialistes des études francophones, on reproche au logiciel d'être politiquement incorrect. Car il n'est plus acceptable aux États-Unis que le mot noir soit associé à des traits négatifs. C'est pourtant le texte de Césaire lui-même. Bien. Bon, je referme cette petite parenthèse pour vous montrer jusqu'où peuvent aller parfois les problèmes d'interprétation dans le milieu littéraire ou de contresens ou de méconnaissance. Je reviens là et vous voyez qu'au mot noir se trouve associé pas mal d'autres termes et vous voyez que j'ai donc la possibilité d'explorer plusieurs univers sémantiques, plusieurs champs lexicaux et de proche en proche, donc de multiplier les angles d'attaque, les analyses. Et pour les littéraires, c'est souvent ce dont nous avons besoin. Je m'en vais en, m'en tenir là. Je vais vous montrer également une autre caractéristique de ce texte. Il est précédé par une douzaine d'articles qui concernent Aimé Césaire. Je vais en choisir un, par exemple, d'Haïti à l'Afrique. Bon. Donc c'est à propos de la tragédie du roi Christophe. C'est un article qui a été publié dans la revue Littérature Comparée. Il y a 6 articles extraits de la revue Études Créoles, 6 articles extraits de la revue Littérature Comparée. Et je vais par exemple simplement prendre le mot Haïti. Je le sélectionne et vous voyez que Haïti est effectivement cité au moins une fois dans les textes d'Aimé Césaire. Je vais revenir. Et je vais tourner la page et nous allons peut-être prendre un autre terme, mettons l'Europe. On me demande de lever une ambiguïté. Et effectivement, le mot Europe est utilisé dans les poèmes d'Aimé Césaire. Donc on peut circuler des textes critiques vers le texte primaire, si je puis dire, des œuvres secondaires aux œuvres primaires de cette manière. Vous voyez un exemple de texte dynamique, car tous les textes de, comment dirais-je, des articles sont traités de la même manière. Donc vous pouvez aller instantanément d'un bout à tous ces emplois, et quand l'écran reste vide, c'est que le mot n'est pas employé par Aimé Césaire. Donc, un exemple de ce que l'on peut faire en matière d'édition électronique en essayant de combiner plusieurs approches et qui, au fond, sont triples ici. Respect du mode de lecture traditionnel dont les littéraires ont l'habitude, peut-être un peu trop. Une approche un petit peu plus hypertextuelle et une approche qu'on pourrait appeler, disons, textuelle, si vous voulez, et qui essaie de combiner différentes approches linguistiques ou documentaires sur lesquelles vous êtes certainement beaucoup plus spécialiste que moi pour savoir comment c'est conçu et comment ça fonctionne. Et puis, maintenant, il y a les livres électroniques. Alors, en ce qui concerne donc les livres électroniques, et en même temps, je vais essayer de changer d'ordinateur. Les livres électroniques, c'est une innovation qui a été annoncée aux États-Unis en 1998. Excusez-moi. Oui, ça marche. Donc, je change d'ordinateur. Donc, les livres électroniques, c'est une innovation qui a été annoncée en 1998. Et ensuite, on en présentait les premiers prototypes aux États-Unis en 1999 et en France au Salon du Livre au mois de mars dernier. Et c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Ces livres électroniques devaient se répandre en masse à partir de ce mois d'octobre. Il semble qu'une certaine hésitation se soit manifestée de la part des groupes éditoriaux concernés. Qu'est-ce que c'est qu'un livre électronique? C'est un objet informatique, qui se présente en gros comme une sorte d'ordinateur léger, ultra portable. Et les prototypes qui ont été présentés au Salon du Livre sont de deux catégories. Soit ce sont des petits micro-ordinateurs d'un encombrement et d'un volume de moitié inférieur à celui-ci. Vous avez un écran et vous avez une sorte de clavier simplifié, ou même vous n'avez plus que l'écran avec deux boutons, l'un à gauche, l'autre à droite. Le bouton de gauche vous permet de tourner les pages vers l'amont. Le bouton de droite vous permet de tourner les pages vers l'aval et c'est le mode, la seule fonctionnalité disponible sur ce type de livre électronique. Le prototype le plus évolué, qui était d'ailleurs américain, comportait la fonction recherche du traitement texte dont je vous ai montré tout à l'heure le fonctionnement à partir de cet article sur Caramo. Ces livres électroniques pour le moment sont muets, mais on nous promet pour l'année prochaine qu'ils deviendront parlants, donc ils vont intégrer une dimension sonore. Et ils pourront devenir effectivement à ce moment-là multimédia et intégrer du texte, des images et des sons. Donc on peut imaginer qu'il puisse y avoir des éditions électroniques en quelque sorte illustrées et multimédia. Ces livres électroniques sont présentés pour le moment comme des livres de première génération ou comme des produits prototypes. Et la philosophie générale en est la suivante. Ces livres électroniques pourront se greffer sur un ordinateur ordinaire, PC, ou peut-être éventuellement Macintosh, lui-même connecté au réseau Internet. Par ce biais, on va avoir accès à des sites éditoriaux sur Internet et on aura la possibilité, sur les plus évolués de ces livres électroniques, la possibilité de recopier jusqu'à 30 textes différents. En contrepartie, évidemment, d'un péage, un droit de péage, une redevance qu'il faudra acquitter auprès donc du centre éditorial choisi. La limite est à 30 textes, c'est-à-dire que si vous voulez enregistrer un 31e texte, il faudra acheter un deuxième livre électronique. Et ainsi de suite. Les textes qui sont diffusés de cette manière seront enkystés à l'intérieur d'un logiciel de consultation en mode hypertextuel, ce sera le mode de lecture privilégié, et ce logiciel sera entièrement verrouillé. C'est-à-dire que le texte que vous aurez récupéré sur votre livre électronique, vous ne pourrez pas le recopier sur votre ordinateur personnel. Vous ne pourrez pas le récupérer sous la mode, la forme de fichier, par exemple ASCII, pour pouvoir le réutiliser par, mettons, le logiciel de Hyperbase d'Étienne Brunet ici présent, ou tout autre logiciel, Lexico. Et donc, la question peut-être que l'on peut se poser est de savoir quel sera le devenir de ce type d'édition et peut-être aussi de ce type de, comment dirais-je, de lecture numérique. Alors derrière, je vous donne un ou deux éléments d'information. Il y a un consortium international qui s'est constitué avec des groupes comme Bertelsmann et Microsoft et qui, par l'intermédiaire d'un standard qu'on appelle l'open book, mais il faut comprendre l'expression d'open book par antiphrase. C'est une conception close, fermée, figée de la lecture numérique, de l'édition numérique ou électronique que l'on cherche à promouvoir. Et donc, par l'intermédiaire donc de la définition des prescriptions, mais aussi des proscriptions de ce standard qui s'imposerait à tous les éditeurs du monde entier, c'est cette forme de lecture numérique assez rudimentaire, me semble-t-il, qui se trouverait privilégiée, et les autres se trouveraient au minimum marginalisés, pour ne pas dire exclus. Alors, ces formes d'édition, comment dirais-je, plus élaborées qui existent, sont déjà de fait marginalisées, et je vais vous donner. Vous racontez au fond, je ne sais pas si je suis un corpus absolu ou une référence absolue, vous montrez quelque chose qui a été fait depuis 5 ans à l'Université d'Artois pour vous donner une idée de ce que l'on peut faire dans le domaine littéraire, qui peut présenter un intérêt pour les chercheurs en littérature comparée, par exemple, catégorie parmi d'autres, parmi les littéraires. Et puis, ça vous permettra peut-être de mieux juger ce qu'apporte de nouveau le livre électronique par rapport à ce que vous avez, vous, l'habitude de faire. Il y a ici des pionniers de plus de 30 ans. Par rapport aux autres formes d'édition électronique que j'ai rapidement énumérées, et ça vous permettra peut-être de vous faire une opinion par vous-même. Donc, dans ce cas précis, il s'agit d'une édition bilingue. Les comparatistes travaillent beaucoup sur les traductions, et en général, les littératures des pays étrangers sont connues dans un pays par l'intermédiaire de traductions. Ces traductions valent ce qu'elles valent. Et donc, en ce qui concerne ce poète qui s'appelle William Blake, dont vous avez ici un essai d'édition bilingue et multimédia sur un recueil de poèmes composés entre 1789 et 1794, Songs of Innocence and of Experience, ou si vous préférez, les chants de l'innocence et de l'expérience. Il faut savoir qu'il existe déjà en français 7 traductions en français. Et donc l'idée a été d'associer au départ, était d'associer le texte en anglais aux 7 traductions en français. Et à partir de cette idée première, le projet n'a pas cessé de s'enrichir, et donc de proche en proche, j'ai voulu associer au texte en anglais les reproductions des gravures initiales. Il se trouve que William Blake était typographe, imprimeur de son métier. Il a lui-même gravé et manuscrit les poèmes. Et donc, vous avez ici des reproductions des frontispices, ici, de ces deux recueils. Et je vais essayer donc de vous montrer un exemple du manuscrit de 1794, qui est conservé à la British Library. Donc, voici un mode d'accès à toutes ces gravures. Et je vais essayer de trouver celle qui correspond à un poème intitulé Introduction. Est-ce que c'est ça? Oui. Voilà, c'est le premier poème. Donc, cela a donc été gravé par William Blake, et c'était coloré par sa femme. Et ce sont des gravures qui ont à peu près 6 cm de haut sur 4 de large, approximativement. Donc vous voyez que déjà on peut les dilater d'une façon démesurée. Et au passage, indépendamment, si vous voulez, du texte lui-même, on peut découvrir certains détails. Est-ce que je vais arriver? Je vais faire un zoom et à partir de là vous montrer ce que le grossissement peut parfois révéler sur l'inspiration d'un poète. Vous avez que caché dans l'illustration de la gravure, vous avez donc une femme nue qui représente l'état d'innocence, évidemment, avant le péché. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Et cette gravure à base de feuillage évoque précisément ce qu'il en était. Et c'est une illustration du titre même, Les champs de l'innocence. Bon, ça c'est un petit amusant, c'est simplement pour l'anecdote. Et donc, à partir de là, j'ai découvert que William Blake avait eu l'intuition, au XVIIIe siècle, de ce qu'on appelle aujourd'hui un hypertexte. C'est-à-dire qu'on a environ 27 ou 28 manuscrits. Ces manuscrits étaient fabriqués à la demande, ils étaient reliés par des bouts de ficelle, et nous n'avons pas deux manuscrits dans le même ordre de succession des poèmes. Autrement dit, il avait déjà eu l'intuition du principe de la permutation des éléments entre eux, il faisait de la combinatoire sans le savoir. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait des manuscrits qui étaient plus ou moins colorés. Donc là, nous avons reproduit deux manuscrits, un de 1794, qui est partiellement coloré, c'est celui que je viens de vous montrer, un autre de 1815, qui est beaucoup plus vif. Les manuscrits étaient colorés à la demande, et il n'y a pas deux manuscrits identiques, il n'y a pas deux fois le même symbolisme des couleurs. Je croyais qu'il n'y avait qu'un texte en anglais. En réalité, comme William Blake jouait déjà sur la ponctuation, supprimer la ponctuation comme le font maintenant beaucoup de poètes modernes, il s'est trouvé des érudits anglais pour constituer trois états différents du texte en anglais. Et donc la référence scientifique est constituée par une référence publiée par l'Université d'Oxford, celle de Sir Geoffrey Keynes, de 1970, qui a été prise comme base pour organiser tout le reste. Et ensuite, nous avons une série de traductions par Marie-Louise et Philippe Soupeau, par Pierre Messaïen, une traduction partielle du premier recueil, par Pierre-Louis Maté, un Suisse, une reprise de la traduction de 1927 par Marie-Louise et Philippe Soupeau en 1947 avec quelques corrections, une autre par Madeleine Casamian, une autre encore par Pierre Léry, et une dernière, la dernière du XXe siècle, par Alain Suyed en 1992-93. Il s'y trouve associé des commentaires par Sir Geoffrey Keynes, et puis tout est présenté avec sa traduction, et j'ai commis un certain nombre de traductions. Vous allez me demander quel est l'intérêt. Je vais vous le montrer à petite échelle, par l'intermédiaire d'un petit, d'un petit logiciel qui a été écrit en langage C et qui vous montre. Je vais essayer de vous montrer, si vous voulez, ce qui intéresse les comparatifs dans ce type de matériel. Vous avez ici donc un poème, donc La Rose Malade, et il est très court, de strophes. Donc il est reproduit en entier. Et je vais maintenant. J'ai les deux premiers vers. Vous avez en haut le rappel des deux vers en anglais et vous avez donc les différentes traductions. Et déjà, vous voyez cette simple confrontation des quatre traductions disponibles, une, deux, trois, quatre, pardon, cinq traductions, vous montre qu'il y a quand même déjà des problèmes de traduction et qu'il y a des problèmes d'interprétation au passage qui se passent. Et c'est l'objet même, si vous voulez, des études comparatistes, que de voir comment les textes ont pu être reçus, perçus, déformés, dénaturés quelquefois. Souvent, ils sont tronqués ou mutilés. Et c'est un domaine de préoccupation important dans nos études. Donc, si vous voulez, c'est ce principe qui a été repris à une très grande échelle. Je vais voir si je peux quitter. Et nous avons donc la possibilité d'avoir accès également à des enregistrements sonores en anglais, mais aussi en français. J'ai récupéré deux séries d'enregistrements en langue anglaise. Et puis, on a lu, et ici également, vous avez des accompagnements musicaux inédits qui m'ont été communiqués par l'Université de Bordeaux. Et il y a également donc des texte d'articles critiques, par exemple sur les traductions de William Blake. Pardon. Ah, un petit problème d'affichage. Voilà. Donc une série d'articles qui sont tous présentés en bilingue, en français et en anglais. sur William Blake et sur les aspects donc intéressants de ce recueil. Donc on a fait un effort pour ajouter donc un certain nombre de compléments critiques. Jusque-là, si vous voulez, vous avez affaire à un premier type donc d'édition qui est en quelque sorte un exemple d'édition hypertexte ou hypermédia, semblable à ce que l'on peut trouver sur Internet. Il y a une deuxième mode d'édition qui est incorporée et il est prévu que le CD-ROM définitif associe les deux séries d'édition avec donc la possibilité. Ah, excusez-moi. Ça marche. La possibilité d'effectuer donc des explorations en posant des questions en langage naturel. Et puisqu'il s'agit de traduction, je suis allé voir du côté de la traduction automatique. Donc, on a la possibilité soit de poser des questions en anglais sur le texte en anglais de William Blake, soit de poser des questions en français, surtout des textes qui sont traduits en français, mais également de poser des traductions en anglais ou en français sur le texte anglais. Donc, je vais simplement simplifier. Pour laisser peut-être un temps à la discussion, je demande simplement le mot enfant, mais j'aurais pu fabriquer n'importe quelle phrase à propos des enfants descendant un val avec un pipeau. Nous allons poser la question. On me demande de lever une ambiguïté, je supprime boy et je vais conserver child. Et voici donc les références. J'ai 33 documents sur 33 où les questions d'enfants, et au passage, je découvre donc que c'est un thème récurrent qui revient donc dans chacun des poèmes. Voici donc les résultats. Vous avez sur la colonne de gauche les textes en anglais, donc avec le rappel de la traduction du mot demandé. Et à droite, vous avez les références de tous les textes donc critiques. Avec la possibilité d'avoir accès à des transcriptions donc phonétiques. Ici, transcription phonétique de l'anglais. Je croyais que la phonétique était une science exacte, mais comment faut-il transcrire un poème du XVIIIe siècle? Selon la phonétique supposée du XVIIIe siècle ou selon la phonétique de la prononciation de l'anglais moderne ou d'aujourd'hui? Et de quel anglais d'aujourd'hui? Celui de Londres ou celui de la province anglaise ou celui d'autres pays de langue anglaise? Voilà le genre de problème que je n'ai pas su d'ailleurs résoudre. On a la même chose donc en français. Et puis la même présentation avec donc vers par vers, soit en français, soit en anglais. On y a ajouté également des index. Et donc là, vous avez un index. Pardon. Il se passe quelque chose, excusez-moi. Je me suis trompé. Je vais revenir. Voilà. Donc là, vous avez un index qui vous permet de comparer le vocabulaire de quatre séries de traductions, celle de Marie-Louise et de Philippe Soupeau, de 27 et de 47, celle de Pierre Messaillant, de 1934, et celle de Pierre-Louis Maté, de 1940. On peut faire beaucoup de découvertes. Par exemple, la traduction du mot « chant ». En anglais, c'est « songs ». En français, selon les traducteurs, c'est tantôt « chant », tantôt « chanson ». Simplement, le mot « chant » est plutôt sacré, la chanson est plutôt profane. Or, l'inspiration dominante de William Blake est plutôt religieuse. Il s'inspire beaucoup de la Bible et de Milton. Donc déjà, traduire le titre de son recueil par chanson plutôt que par chant, c'est induire un léger faux sens, une légère distorsion de sens. Et donc, ça peut être utile, si vous voulez, au niveau de la traduction, de voir comment c'est utilisé à travers ces index d'une traduction à l'autre. Ces index, d'ailleurs, je dois le dire, ont été faits avec une version antérieure du logiciel Lexico, je ne sais plus si c'était un ou deux, et j'aurais voulu les associer à des index poème par poème. Ce qui aurait été intelligent, ça aurait été de laisser le logiciel à la disposition de l'utilisateur pour qu'il puisse le manipuler lui-même. Malheureusement, la manipulation du logiciel est tellement complexe que nous y avions renoncé, parce que quelqu'un qui n'est pas au fait de l'informatique ne peut pas y arriver tout seul. Et donc, ça pose un problème qui est de comment l'on peut doter les éditions de textes littéraires de logiciels qui en permettent la consultation ou l'exploration d'une façon qui soit scientifiquement satisfaisante d'un côté, mais aussi suffisamment facile pour des utilisateurs ou des lecteurs ou des littéraires, des étudiants ou des professeurs de lettres qui ne sont pas familiarisés avec l'informatique et moins encore avec la linguistique, la statistique et l'informatique. Et puis, nous avons également la possibilité d'entendre, je vais à titre vous en faire écouter un. Pardon, excusez-moi, j'ai un tout petit problème. Le malheur veut. Oui, voici un enregistrement sonore.
Rise in a summer morn, when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. How can the bird that is born for joy sit in a cage?
Alors, j'interromps la démonstration là, le but c'est simplement de vous donner une idée de ce que c'est. Et j'en arrive maintenant à ma remarque de conclusion qui sera peut-être un peu une provocation à la réflexion ou à la discussion. Vous voyez donc ce que l'on peut faire par rapport donc à ce qui existe ou à ce qui a existé sur le marché pendant un certain temps, par rapport à ce qui pourrait exister à partir de l'année prochaine, peut-être en très grande masse. Et donc, pour en revenir au propos initial, l'avenir de la lecture numérique, eh bien, j'avoue que je suis extrêmement perplexe quant à l'avenir de la lecture numérique. Je crains en effet que tout ce qui a été fait depuis 30 ans ne soit en quelque sorte marginalisé ou refoulé par ce que un certain nombre de grandes maisons d'édition se proposent donc de diffuser sous le nom de livres électroniques, en présentant ceci comme la dernière innovation technologique comme étant l'essentiel de ce que l'informatique, les nouvelles technologies de l'information ou de la documentation peuvent apporter. Or, quand on analyse de près ce qui nous est annoncé comme innovation, on s'aperçoit qu'il s'agit plutôt d'une fausse innovation, qu'il s'agirait plutôt d'une régression, qui est finalement fondée sur un présupposé, à savoir, au fond, le rejet, le refus de tout ce que l'informatique, de tout ce que l'informatique linguistique, toutes les recherches dans ce domaine, ont pu apporter depuis 30 ou 40 ans dans ce domaine. Et à partir de là, il se greffe, si vous voulez, d'autres problèmes. Alors, je vais les énumérer en vrac. Ce travail a été réalisé dans le cadre d'une université. Il finit. Mais on m'explique que je n'ai pas le droit de le commercialiser. Je suis obligé d'attendre que les universités se dotent d'un SAI, c'est-à-dire d'une sorte d'entité qui aura le droit de faire du commerce. Juridiquement, une administration publique, un établissement public à caractère culturel n'en a pas le droit. À supposer que j'ai ce droit, je me heurte à d'autres difficultés. J'aurais voulu, par exemple, associer à William Blake le logiciel Lexico 1, dans une version peut-être simplifiée, pour permettre aux utilisateurs de travailler selon leur intuition. Parce que ce qui est important, c'est peut-être un paradoxe, c'est peut-être aussi une autre idée de provocation, une autre provocation. Un littéraire ne sait pas ce qu'il cherche au départ. Bon, c'est un peu une boutade, parce qu'en fait, nous essayons d'adopter une démarche de critique interne, et d'essayer de découvrir ce qui fait l'originalité d'un texte, l'originalité de la démarche d'un auteur, de nous couler dans ce que nous croyons percevoir de ses intentions, et de proche en proche, nous nous construisons un certain nombre d'hypothèses de recherche, et nous essayons de vérifier si elles sont valides par rapport à un certain nombre de techniques d'exploration. Mais c'est une démarche qui demande beaucoup de liberté. C'est un petit peu fonction de l'intuition de chacun, de son héritage ou de son bagage intellectuel ou culturel. Il faut que les instruments informatiques permettent. C'est pour cela que ce qui avait été fait de façon très timide sur une petite centaine de titres par les éditions Ilias, c'était intéressant. C'est qu'à tout moment, on avait la possibilité d'approfondir une intuition, de revenir en arrière. On n'était pas prisonnier de choses qui sont peut-être trop lourdes d'ordinaire pour un littéraire. Mais comment faire? Parce que je n'ai pas accès au logiciel source. Les gens qui développent Lexico, je ne pense pas que je serai démenti, n'ont pas vraiment le temps de se livrer à la maintenance évolutive et puis à l'adaptation de ce logiciel sur toutes les gammes de matériel, et parce qu'on n'a pas d'argent. Et puis, à supposer qu'il y a un dernier problème, c'est en suspens, qui est le problème des redevances. Et quand on sait l'ordre de grandeur des budgets de recherche littéraire, ce qui serait compris dans les dépenses de fonctionnement d'une journée de travail d'un laboratoire informatique correspond à 1 ou 2 années de budget accordé à un centre de recherche littéraire. Et puis, troisième ou quatrième ou cinquième difficulté ou blocage dans mon énumération, quand vous essayez de travailler avec des éditions électroniques, par exemple avec la société Ilias, j'ai réalisé donc cette édition sur Aimé Césaire, et j'ai demandé ensuite quel était le montant qu'ils exigeaient pour le droit de se servir de leur logiciel pour pouvoir achever l'édition et la diffuser. La somme qui m'a été annoncée a été de 300 000 francs. Mais il faut dire que c'est un monde, comment dirais-je, un univers professionnel où ces sommes sont de petites sommes. Mais pour les littéraires ou les linguistes ou les universitaires, ce sont des sommes considérables. Le budget entier de mon UFR à Arras, c'est 200 000 francs. Donc, il est absolument inconcevable qu'à l'Université d'Artois, je puisse trouver l'argent adéquat. Au-delà, ça pose un problème qui peut être la définition de quelque chose, enfin un problème. Il y a dans la nature, finalement, des sociétés de traitement avancé du langage ou des éditeurs qui ont développé des instruments de lecture qui pourraient être utilisés, dont la combinaison ou l'imbrication pourrait présenter un intérêt non seulement pour les littéraires, mais peut-être pour toutes les disciplines où on a affaire à des textes. Mais jusqu'à présent, à ma connaissance, personne n'a essayé d'en faire vraiment l'inventaire, personne n'a essayé de faire vraiment de fédérer ses efforts. Ce sont des choses qui se sont faites depuis une dizaine d'années en ordre dispersé, en coup par coup, et qui, je pense, vont être balayées, ont peut-être déjà commencé à être balayées par les perspectives qu'ouvre le livre électronique. Et le livre électronique, finalement, c'est la caricature du livre imprimé qui va nous être proposée. On va simplement remplacer le support papier par le support électronique, un support matériel. On va faire l'économie de l'inclusion de logiciels de recherche intelligemment conçus pour en exploiter comment dirais-je, le contenu. Et il se peut que nous soyons à la veille peut-être d'une régression de plusieurs dizaines d'années dans ce domaine. C'était ma conclusion. Elle est peut-être un peu triste. Excusez-moi, monsieur Rastier.
Merci. Merci bien, Alain Villemain. Alors, je pense que merci pour cet exposé passionnant. Il va certainement y avoir des questions, des remarques de toutes sortes. Alors, François Rastier. Attention.
Non, je ne suis pas triste, je pense qu'un exercice de lucidité est de toute façon nécessaire, que évidemment il n'y a eu aucune volonté politique de changer quoi que ce soit. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est qu'on nous propose le codex avec des index, des choses comme ça. Alors c'est plus rapide à feuilleter, mais l'idée, alors quand on discute avec les éditeurs, je veux dire les plus évolués, les plus philologiques, ils vous disent, ah, nous on a des fonctions littéraires. Et la fonction littéraire, ça consistera à faire peut-être mieux que le mot de page de la station de travail, entre guillemets, de la BNF, mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire, on va appeler recherche thématique l'appel d'une occurrence. Alors, il y a quand même une expérience, disons, en thématique et en sémantique. On sait très bien que jamais l'appel sur un mot ne donne accès à un texte. Et. Bon, le problème, c'est de précisément de trouver des termes, enfin, ne serait-ce que des termes auxquels on n'aurait jamais pensé. Par exemple, si on fait une recherche sur l'ennui dans le roman français, on aura le dimanche, l'araignée. Bon, intuitivement, jamais aucun dictionnaire de thèmes. Alors, on est quand même captif de conceptions, disons, véritablement étriquées de ce que c'est que de ce que sont les formes textuelles. Et donc, on se limite à des formes, à des formes au sens lexical du terme. Et je crois vraiment que si on n'arrive pas à montrer l'intérêt d'autres formes de lecture que le pressbook où on presse à droite et à gauche, évidemment, on va vers une régression parce que c'est cet objet qui tombe déjà des mains. depuis qu'on a autorisé la lecture des romans aux jeunes filles, et, bon, on a fait un progrès, mais en fait, c'est l'abandon de la lecture en elle-même. Alors, on rajoute, qui fait problème, on rajoute, disons, des gadgets, enfin, de la musique, de ceci, de cela, mais c'est exactement comme dans les petits classiques où on montre la photo de la maison de Madame Bovary. Au contraire, je veux dire, ça empêche, d'une certaine manière, ça détourne la lecture. Il n'y a qu'à voir l'usage que les gamins peuvent faire d'un CD. Ils vont cliquer dans les photos, dans les sons, etc. C'est-à-dire, on diminue la possibilité d'un parcours de lecture textuelle pour remplacer ça par une succession de spots ou d'anecdotes. Et là, je crois qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur la textualité en elle-même, au-delà de la question de la présentation du texte philologique du texte, qui est en effet quelque chose qui a fait des progrès malgré tout, comme votre exemple de texte avec traduction, qui est tout à fait fascinant, le montre.
Oui, mais je ne sais pas s'il faut être peut-être aussi pessimiste que vous l'êtes, parce que le livre électronique, le e-book, pour lequel on peut avoir plus ou moins de sympathie, moi je n'en ai pas beaucoup pour le moment, mais a un usage qui est un usage de lecteur. On nous le vend, on nous propose à terme pour remplacer le livre et l'avoir dans son lit, dans le bus, bon, etc. Donc c'est un usage de lecture cursive a priori. Ce que vous avez proposé, et qui était extrêmement intéressant, on était dans des usages de lecture plus savante, en tout cas de lecture plus curieuse, avec usage de l'hypermodalité ou hypertextualité. Et là, je crois qu'il y aura quand même des universitaires qui seront prêts à avoir des CD-ROM qu'ils installeront sur leur station multimédia pour travailler. Le e-book ne va pas tuer nos outils de recherche.
Alors, deux remarques, parce que votre remarque est double. En ce qui concerne la possibilité, si vous voulez, pour les universitaires de se servir de cela, les produits que je vous ai montrés ont été réalisés par des maisons d'édition qui se sont retirées du marché. Donc, ils ne sont plus diffusés ou ils ne sont pratiquement plus disponibles. Donc, dont vous ai parlé n'a plus qu'un intérêt historique. Deuxièmement, à supposer que des universitaires aient envie de se procurer cela, je vais vous faire part d'une expérience vécue. À l'université d'Artois, j'ai créé une CD-TEC d'environ 180 titres. J'ai 180 éditions électroniques, j'en ai en français, mais aussi en anglais, en italien, en hongrois, en espagnol. J'en ai même en latin et en grec ancien. Je peux vous dire que jusqu'à présent, aucun de mes collègues de l'université d'Artois n'a exprimé le souhait d'en consulter un seul. Et donc, à supposer d'ailleurs qu'ils en aient, là aussi, si vous voulez, c'est simplement un parcours vécu de contradictions qui sont peut-être insurmontables. À supposer d'ailleurs qu'ils en expriment le souhait, jusqu'à nouvel ordre, techniquement, j'en ai pas la possibilité. Pourquoi ? Parce que le ministère a décidé le tout Internet. Donc, tous les ordinateurs de notre université sont en réseau, et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'universités françaises. Mais il y a les agressions informatiques. Donc, on a multiplié les protections sur le réseau, jusqu'à démonter les lecteurs de disquettes. Or, la plupart de mes éditions, vous voyez, les hyperlivres, sont sur des disquettes. Donc, je n'ai même pas le moyen de charger ces éditions sur des ordinateurs. Il y a d'autres pièges. Sur les dernières versions de Windows, vous ne pouvez même plus consulter le CD-ROM. Vous allumez votre ordinateur, vous consultez un premier CD-ROM, et quand vous avez retiré ce premier CD-ROM et que vous introduisez le second, le driver du CD-ROM est effacé. C'est un défaut qui est inhérent au système d'exploitation. La seule ressource, c'est d'éteindre. Mais si vous éteignez l'ordinateur, pour le rallumer, il vous faut un mot de passe. Le mot de passe, seul l'administrateur de données de l'université l'a. Car quand vous arrivez dans la salle multimédia, les ordinateurs sont déjà allumés. Donc, vous connaissez des mots de passe intermédiaires pour vos propres usages, vos propres fichiers. Mais supposons que nous ayons réussi à lever toutes ces difficultés. Et au passage, est-ce que vous aimez les oranges, mesdames, messieurs ? Oui, parce que quand nous serons tous à Fleury-Mérogis, il faudra peut-être s'y résigner. Rendez-vous compte que j'ai pris un risque énorme. Je n'ai pas le droit de vous présenter ce que je vous ai présenté. Je vous ai présenté des choses dont je suis l'auteur, je vous ai présenté des choses pour lesquelles nous avons des licences d'utilisation, tantôt monosite, monoposte, tantôt multisite, multiposte. Donc, à l'Université d'Artois, nous avons une licence d'utilisation pour tous les titres des éditions Ilias ou Acamélia, pour tous les postes et tous les sites de l'université. Nous sommes en plus une université multipolaire avec 5 campus entre Douai, Lens, Liévin, Béthune et Arras. Mais je n'ai pas le droit de les présenter à l'intérieur d'un amphithéâtre du centre universitaire Jussieu. Vous non plus, d'ailleurs. Nous sommes un certain nombre, d'ailleurs, à avoir commis, en le sachant, d'ailleurs, nous avons pris nos responsabilités et le risque, nous avons commis des délits qui sont en principe réprimés. Et donc, il y a des difficultés qui sont réglementaires, enfin, des difficultés qui sont juridiques. Il y a même des difficultés réglementaires intermédiaires. Je vous en signale une, parce qu'elle est tellement ridicule que l'anecdote est croustillante. Dans mon université, il y a des salles multimédia. Mais comme l'équipement est très coûteux, on a pris un luxe de précaution qui fait que la salle ne peut être ouverte qu'en la présence d'un enseignant. Alors, deux remarques. D'abord, l'idée qu'un cours informatisé puisse être préparé, qu'on ait besoin de travailler sur les ordinateurs avant que le cours commence, effectivement, n'est pas encore intégrée dans la culture administrative universitaire. Deuxième remarque. Quand le préposé à l'ouverture de la porte arrive avec son badge électronique, il n'est pas toujours à l'heure. Il est même arrivé une fois que la serrure électronique n'est pas fonctionné. Et de toute façon, dès l'instant où il n'y a pas d'enseignant physiquement présent dans la salle, les étudiants n'ont pas le droit d'avoir accès à la salle. Ce qui veut dire que la possibilité pour eux de faire des répétitions, de préparer leurs propres exercices ou les reprendre, leur est interdite. Bon, ça c'est une anecdote, dirons, réglementaire interne, mais je pense que c'est une expérience qui doit être vécue en d'autres endroits en France. Donc, ça c'était pour répondre à la deuxième partie de votre question. J'ai énuméré l'accumulation des difficultés ou des contradictions auxquelles on est affronté, simplement pour essayer de diffuser les choses dans un milieu universitaire. Mais il y avait aussi, dans votre question, un présupposé, et au fond, moi aussi j'étais un petit peu coupable quand j'ai dit que ces formes de lecture étaient réservées à des usages un peu savants. Dans votre question et dans la remarque que j'avais faite, il y avait un présupposé, à savoir qu'il y a une différence de nature entre ces deux modes de lecture. Mais quand vous y réfléchissez, et quand vous rencontrez un littéraire qui a la franchise de vous raconter, de vous expliquer comment il travaille, les dénombrements que vous faites par l'intermédiaire de l'utilisation d'index ou de concordance, etc., nous les faisons, nous aussi. Mais la plume à la main est sur des petits bouts de texte. Un commentaire stylistique, un commentaire littéraire, nous commençons forcément par des dénombrements de mots. Mais par coquetterie, nous refusons de le reconnaître. Et donc, il y a, si vous voulez, des méthodes de travail que nous pratiquons, mais que nous ne voulons pas reconnaître dès l'instant où elles ont une existence informatisée. Et ça, c'est un préjugé, une attitude qui est assez répandue dans les milieux littéraires. Et puis, au-delà, dans les milieux éditoriaux, cette idée qu'il y a une distinction de nature entre les formes de lecture traditionnelles et les formes de lecture nouvelles. Or, je ne pense pas, je pense que c'est au contraire, qu'il n'y a pas de solution de continuité, il n'y a pas de rupture. Moi, ce qui me frappe quand je suis invité dans des pays étrangers, heureusement, il y a des pays étrangers comme la Bulgarie ou le Brésil, qui sont beaucoup plus ouverts aux nouvelles technologies qu'en France. Il m'a fallu aller aux États-Unis pour pouvoir enfin faire des cours sur Internet comme je le souhaitais, avec des postes de travail individuels et un réseau Internet qui fonctionnait sans difficulté. Bien. Et j'étais frappé par la façon dont les étudiants étaient transportés d'enthousiasme par la découverte des hyperlivres et de ce mode d'exploration. Je pense qu'il y a peut-être là quelque chose qui mériterait peut-être d'être connu, mais qui ne sera pas connu, en toute hypothèse, je le crains. Et au-delà, il y a peut-être une foule de questions sur l'avenir même de nos recherches, sur l'avenir de nos travaux, de nos publications, de la façon de faire connaître nos travaux dans tous les domaines, qui se trouve posé. Peut-être que ce n'était peut-être pas le lieu, mais vous m'avez semblé comprendre que vous souhaitiez que j'en parle un petit peu. Je ne sais pas si j'ai répondu oui, je veux bien.
Peut-être quand même pour redonner un petit peu d'espoir, parce que le tableau très très noir que vous donnez, c'est vrai que toutes ces difficultés existent. Moi je travaille dans le secondaire, dans l'éducation nationale, maison qui n'a pas la réputation d'être très très progressiste non plus. Et on arrive quand même à travailler. On a mis au point...
Oui, vous avez dit que vous étiez dans l'enseignement secondaire où j'ai enseigné moi-même pendant longtemps. Je dirais qu'à la différence des universités, C'est dans les lycées, dans les collèges qu'il y a eu une volonté politique de faire des choses. Voilà. Il n'y en a jamais eu dans les universités, c'est plutôt une volonté.
Mais on est quand même sur une phase de transition, et ce qui se passe dans le secondaire, forcément, on ne va pas laisser des élèves qui auront suivi un cursus en analyse littéraire assistée par ordinateur, on ne va pas les laisser tomber après 5 ans d'études, et puis à la fac, c'est fini, on n'en parle plus. Il y aura une demande, il va y avoir une pression. Je crois qu'il faut aussi... ça commence à sortir sur les problèmes effectivement qui sont les plus lourds, sont les problèmes juridiques, les problèmes de droit. Les éditeurs sont en train de confisquer complètement et nous sommes tous dans l'illégalité. Et là aussi, il y a peut-être une position militante à avoir. Nous sommes dans l'illégalité et allons peut-être au clash aussi sur certains. Bon, il y a des listes de diffusion qu'on connaît tous ici, dans lesquelles il y a des choses ce sujet est souvent soulevé. Mm-hmm. Il y a même des provocations. Moi, je voudrais vraiment pas être aussi noir, même si le problème des droits est vraiment le plus inquiétant. Et c'est, j'imagine, ce qui vous a empêché de publier Césaire, notamment.
Non, c'est un problème d'argent.
Oui, c'est
ah, c'est pas la même chose.
Oui, mais ça peut souvent se superposer.
Non, si vous voulez, non, mais il faut se rendre compte, c'est la disproportion entre les budgets de recherche. Bon, je fais partie du conseil scientifique de mon université. Je peux vous dire que les budgets de recherche, les centres de recherche scientifique par rapport aux centres de recherche littéraire, c'est d'un rapport de 1 à 50 ou de 1 à 100. Il y a un centre de recherche dans mon université qui a un budget annuel de l'ordre de 4 millions de francs lourds. Avec les 20 000 francs dont je dispose, pour 6 chercheurs. Et ma situation, je pense, n'est pas unique. Bien. D'autres questions, peut-être ?
Je vais orienter un peu les choses différemment. Donc, moi, je suis un lecteur ordinaire, et je trouve que l'e-book, ce n'est pas pratique du tout. Est-ce que vous connaissez l'existence, enfin, éventuelle, du papier électronique ? Qui était présenté aussi au Salon du Livre et qui, à mon avis, ouvre des perspectives tout à fait intéressantes si jamais ça se développe vraiment. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose, enfin, un document relativement lourd à transporter, si vous aviez un papier un peu plus épais que le papier ordinaire, mais enfin, du type cartonné, sur lequel s'affichent vos textes, ça serait un avantage quand même considérable. C'est une perspective, je trouve, comme lecteur, qui est intéressante et qu'on évoque assez peu.
Alors oui, je peux même vous dire qu'à partir de la Toussaint, il va y avoir des expérimentations lancées par Hachette dans 5 établissements, dans 5 collèges, dans 5 classes de 3e, sur le cartable électronique. Ce n'est pas encore l'encre électronique, mais c'est un peu le même principe. Ces cartables électroniques, en fond, ce sont des écrans tactiles. Et puis avec un crayon électronique, les élèves pourront faire un certain nombre de choses sur des textes. Ce sont des recherches qui vont démarrer et qui préfigurent peut-être ce que pourrait apporter l'encre électronique. Non, simplement, je voudrais quand même revenir sur une idée, c'est qu'une application informatique, ce n'est pas simplement un matériel, un ordinateur dont il faut se servir. Ce n'est pas seulement un texte ou une collection de textes ou un corpus, mais ce sont aussi des logiciels qui permettent d'appréhender le contenu de ces textes, de les explorer de façon plus ou moins rapide, scientifique. Et ça, si vous voulez, c'est une dimension qui est pour le moment un petit peu exclue de toutes les réflexions en dehors des cercles universitaires. Du moins, est-ce l'impression que j'éprouve, que je ressens. Bon, au-delà, si vous voulez, je ne sais pas ce qui peut se produire. Hein. On nous promet que les prototypes de livres électroniques ont été présentés l'an dernier, sont des prototypes dits de première génération. La deuxième génération aura le son, peut-être que la troisième génération aura les logiciels. Je ne sais pas quelle sera la position ou l'avenir de ces livres électroniques par rapport à l'encre électronique ou aux autres supports concurrents. Je ne sais pas comment ces produits vont se déterminer par rapport aux livres à 10 francs. Parce que bon, les livres électroniques vont coûter entre 2 000 et 3 000 francs à l'acquisition. Puis ensuite, vous devez ajouter le coût d'acquisition, le coût de cession de chacun des 30 textes que vous aurez le droit de recopier dessus. Donc à partir de là, vous faites le total mentalement. Et puis la concurrence avec la diminution des prix des micro-ordinateurs portables et la richesse des fonctionnalités qui pourraient, comment dirais-je, se manifester. Simplement, ce qu'il faudrait, c'est que peut-être qu'il y ait un certain nombre de logiciels permettant de faire des approches informatisées intéressantes et intelligentes, intelligentes d'abord, intéressantes, et puis peut-être enfin un peu plus conviviales qu'elles ne le sont d'ordinaire en milieu universitaire, pour peut-être permettre, parce que sur Internet, vous avez des quantités de gens et de sites qui vous proposent des textes en mode ASCII, ou en mode texte, ou en mode en fichier Word, ou même en HTML, même. Ce sont des fichiers qui peuvent être récupérables. Mais une fois qu'on les a récupérés, avec quoi va-t-on les appréhender? Et au fond, finalement, les gens ordinaires sont privés de tout moyen, d'exploiter ces richesses pour des sommes qui ne soient pas trop élevées. Mais je ne souhaite qu'une seule chose, c'est être démenti. Oui.
Vous parliez de récupération de textes et de difficultés de récupération de textes sur Internet et de difficultés à les traiter. Enfin, je vous signale quand même que, par exemple, dans mon laboratoire à l'École normale de Saint-Cloud, qui est maintenant à Lyon, vous avez un logiciel qui s'appelle l'Explorer, qui est à disposition de tout le monde, moyennant un mot de passe, et si vous voulez, je vous le donnerai confidentiellement. Qui permet de traiter n'importe quel texte pris sur Internet et qui a à peu près toutes les fonctionnalités qu'on a vues depuis le début de ce colloque et même certaines autres en plus. Donc vous pouvez traiter à peu près tous les textes qui sont sur Internet.
Mais écoutez, moi je vous remercie à la fois de me révéler l'existence de ce logiciel. J'avoue que je ne sais pas tout ce qui existe en France. Et je vous remercie également de votre proposition.
De la plupart des écrivains français, dont les textes ont été puisés sur Internet. Et Verbasse peut très, très facilement de les traiter à très bon compte, puisque je ne vous l'ai pas dit encore, mais j'ai fait circuler un petit prospectus pour dire que le logiciel n'était pas très cher, il est très souvent donné, mais quand c'est une institution, il vaut quand même mieux que l'institution l'achète. Et ça vaut 950 francs, c'est pas tout à fait ruiné.
D'autres questions?
Oui, monsieur.
Prenez le micro, s'il vous plaît.
Plus littéraire, pour dépasser le débat livre papier, livre électronique, actuellement on est en train de mettre sous forme numérique des textes qui n'ont pas été conçus pour ça. Et d'ailleurs, malgré tout, vous avez dit à un moment, l'auteur avait eu une intuition de l'hypertexte, chose qu'on pourrait dire également de Balzac. Et c'est pour ça que ces éditions-là marchent bien et ces auteurs-là marchent bien. Bon, ça c'est une chose. Et aujourd'hui, on commence à voir des auteurs qui écrivent pour le support numérique, c'est-à-dire pour être lus avec et selon la technologie hypertextuelle. Et c'est là que l'ordinateur ou le e-book, avec des fonctionnalités minimales, constitue une autre avancée. Et on parlait de genre hier, je pense qu'avec le roman hypertextuel, on a, à défaut d'un autre genre, un sous-genre qui apparaît.
Alors là, vous abordez un sujet sur lequel je risque d'être intarissable, puisque j'ai moi-même publié un livre collectif sur la littérature générée par ordinateur, qui possède d'ailleurs une édition électronique, sur le site de l'Agence universitaire de la francophonie. Je dirais qu'effectivement, les livres électroniques, c'est une invention qui nous vient des États-Unis, et c'est aux États-Unis que les hypertextes de fiction se sont le plus développés. Je dirais même que les applications, si vous voulez, de l'informatique à la création littéraire aux États-Unis, ça se ramène pratiquement qu'à ça aujourd'hui. Vous avez un site d'ailleurs important qui est Eastgate System, qui a une vingtaine de titres maintenant d'hypertextes, parfois très compliqués, très complexes, qui sont proposés. Et les e-books, effectivement, se prêteront à la diffusion de ce type de création littéraire par ordinateur. Mais ça va tuer les autres formes de création littéraire par ordinateur. Par exemple, les e-books sont tout à fait inappropriés à permettre la diffusion de la revue de poésie électronique à lire qui existe depuis 1989, parce que technologiquement, ce n'est pas compatible. Les e-books ne permettront pas de diffuser des générateurs de texte. Bon, il existe dans la nature, entre les littéraciens de l'association Alamo Et par exemple, les générateurs de textes, la société Ilias avait essayé de diffuser, ils avaient même créé une collection, Génération. Ils n'ont pratiquement jamais rien vendu d'ailleurs, mais il y avait 8 ou 10 titres, des générateurs de récits, de fictions autobiographiques, de mémoires. Il y a dans ce domaine des choses qui sont parfois assez spectaculaires et assez étonnantes, mais ça ne pourra pas être diffusé par l'intermédiaire des e-books.
Oui, mais ceci dit, les sites de création artistique, soit art plastique, soit poésie contemporaine, aujourd'hui, même avec un ordinateur, on est sans arrêt obligé, parce qu'il y a une fascination des artistes pour les... comment ça s'appelle ces petits...